Nous avons donc essayé d'entrer dans les cinq modalités de l'acte et de la puissance. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre qu'il n'y a pas d'autre modalité de l'acte et de la puissance. Ce qui serait intéressant à faire. Alors on va essayer de, au moins de toucher le problème. Bon, je vous ai dit que pour la question de l'opération et du mouvement, c'est plus simple, on n'a pas besoin trop de traiter ces questions-là. Ce qui est intéressant uniquement pour voir que ces questions-là sont reprises de fait dans la philosophie du vivant et dans la philosophie de la nature. La philosophie de la nature regarde le mouvement, ce qui est mu, et la philosophie du mouvement, du vivant, regarde ce qui se meut. Et ce qui se meut, c'est l'opération vitale. L'immanence de l'opération vitale, à la différence de la juxtaposition quantitative du mouvement physique. Donc il y a quelque chose de particulier, ce qui explique comment dans l'opération vitale il peut y avoir le repos, il n'y a pas de repos dans le monde physique. Alors, ce qui est important, c'est d'essayer de se poser la question, étant donné, hein, je fais le petit amour, rapidement, parce que vous avez déjà pris, alors les diverses modalités de l'acte, mais c'est le bien, le vrai, opération vitale et mouvement. En comprenant bien que là nous sommes au niveau de philosophie première, autrement dit la philosophie de l'acte et de la puissance a immédiatement sur la philosophie première une conséquence. C'est que tout le problème de l'essai apparaît comme ce qui va achever, compléter toute la philosophie de Mouzillon. Eh bien, l'achèvement, c'est les... autre chose est de regarder l'essai, autre chose est de regarder l'être en acte. Hein. Ça, il faut bien le saisir. C'est pas commode parce que c'est très proche, et beaucoup l'ont confondu. Mais il faut bien comprendre la différence. Hein. La saisie de l'être en acte et de l'être en puissance, c'est la saisie qui divise l'être. Donc c'est quelque chose de nouveau, d'irréductible à la philosophie de Lousiat. On peut saisir Lousiat et on peut très bien ne pas saisir l'être en acte. Ça peut arriver. Et si vous saisissez l'être en acte, vous avez tout de suite sur la métaphysique de Lousiat un regard nouveau, c'est que vous voyez comment Lousiat demande d'être achevé par l'essai. Mais c'est pour ça qu'il faut bien saisir la différence entre les deux. Là, vous êtes au niveau du principe, c'est-à-dire de la fin, tandis que là, vous êtes au niveau d'une complémentarité de Lousiat. Qui est la, d'une certaine manière la fin de Lousiat. De Lousiat en tant, non pas principe, mais en tant qu'elle implique une potentialité. Donc le pose. Il ne faut jamais oublier que dès que je suis au niveau de la puissance, une puissance qui existe est toujours une manière d'être particulière. Le point de vue du bien, c'est l'éthique. Nous avons vu. Comment le bien, être en acte, fonde l'éthique. Je dis bien fonde l'éthique. Hein. L'éthique a son principe propre, qui n'est pas un principe métaphysique. Le principe de l'éthique n'est pas l'être en acte, c'est la fin. Et la fin est un principe propre, que seule l'éthique saisit. Autrement dit, l'éthique représente une partie de la philosophie irréductible à la métaphysique. Je ne peux pas considérer l'éthique comme tout simplement une application de la métaphysique. Ce qu'on a fait en basse scolastique. Et alors, à partir de là, on n'a plus rien compris du tout. Bon, on a dit que la philosophie spéculative devient pratique en s'étendant. Non, alors elle devient pratique, pas du tout. La philosophie spéculative ne devient jamais pratique. La preuve, c'est qu'il y a des gens très spéculatifs qui ne sont jamais pratiques. C'est pas du tout, c'est deux choses tout à fait différentes. Le domaine pratique demande une saisie nouvelle. Une saisie nouvelle de la fin. On peut avoir une connaissance spéculative. Remarquez, quand la connaissance spéculative n'est pas complétée par la connaissance pratique, il y aura tôt ou tard une fêlure par rapport à l'homme. Je crois que si on veut aller jusqu'au bout de la philosophie première, il faut une éthique. C'est nécessaire. Et il faut une éthique et l'éthique demande d'être vécue. Parce que l'éthique, la connaissance pratique, si elle n'est pas vécue, ça ne va pas. Donc il faut une éthique. C'est pour ça que le philosophe, la philosophie ne peut aller jusqu'au bout qu'avec une rectification d'avis. Ce qui est très important à comprendre. S'il n'y a pas de rectification d'avis, il n'y aura pas une philosophie première qui ira jusqu'au bout. Il y aura tôt ou tard, on tombera dans le précipice. Et alors on n'arrivera plus à continuer. Deuxièmement, le vrai guérit la critique. Alors la critique, hein, elle aussi, le vrai fond de la critique. La critique, c'est la vérité formelle. C'est-à-dire la manière dont l'intelligence arrive à comprendre le point de vue du vrai. L'opération vitale, philosophie du vivant. Et le mouvement, philosophie de la matière. Mettons ça. Philosophie de la nature, si vous aimez mieux. Je vous ai dit, il faudrait peut-être presque aujourd'hui dire philosophie de la matière. Ce serait presque mieux. Vous comprendrez mieux ce que c'est. La philosophie de la nature qui reste quelque chose de trop. Mais la nature, on s'est vu. Il faut presque dire philosophie de la matière. J'aimerais presque mieux ça. Bon, alors, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui reste à propos de cette division de l'être en acte et l'être en puissance? Si je veux voir tout le rayonnement de cette philosophie de l'être en acte et l'être en puissance, quelles sont les parties de la philosophie qui ne sont pas immédiatement irriguées? Des fois qu'ils ne reçoivent pas directement l'influence de la philosophie, de la distinction de l'être en acte et d'être en puissance. C'est normal que je me pose la question. Je dois la poser. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a philosophie du fatuel. Autrement dit, est-ce que le beau ne serait-il pas une des modalités de l'être en acte? Certains thomistes l'ont dit. On sait bien, Maritain, Garrigou-Lagrange, toute une série l'ont dit, Louvain, toute une tradition de Louvain, ont dit que le beau est de fait un transcendantal, donc une modalité de l'être en acte. Puis qu'est-ce qu'il y a encore? Philosophie politique, philosophie de la communauté. Alors, ce serait le bien commun. Le bien commun n'est-il pas une des modalités de l'être en acte? Je crois que comme ça, toutes les parties de la philosophie sont présentes. Hein? Comprenez bien. Toutes les parties de la philosophie sont présentes. Donc, je dois me poser la question pour voir si vraiment ces cinq modalités représentent les cinq modalités, les seules que je puis avoir. Tant qu'on ne s'est pas posé cette question-là, on reste encore, si vous voulez, devant une constatation qui est une constatation a posteriori, c'est tout. De fait, Aristote a parlé de ces cinq modalités. C'est très bien. Aristote n'a pas tout dit. Il a parlé de ces cinq modalités. Si je regarde attentivement, je vois que les cinq modalités sont présentes dans Aristote. Mais il y a des choses qu'Aristote, depuis, on a progressé depuis Aristote. Hein. Alors, c'est pas un argument de dire Aristote l'a pas dit, donc on n'a pas le dire. Pas du tout. Il faut poser la question. Alors, je vais dire d'abord le beau. Le beau n'est pas une des modalités de l'être en acte. Et vous comprenez tout de suite pourquoi, si vous avez fait l'enquête de savoir qu'est-ce que c'est que le beau. Ce qui n'est pas commun. Le beau, c'est de l'ordre de la forme. Splendeur de la forme. Je crois qu'on doit dire que c'est la splendeur de la forme. Le beau n'est pas au niveau de l'être, il est au niveau de la forme. Vous allez tout de suite saisir pourquoi assez facilement. C'est que l'homme est capable de réaliser de nouvelles œuvres d'art qui sont belles. Il peut réaliser une œuvre d'art qui est belle. Rien n'empêche ça. Pourquoi pas? L'homme peut réaliser une œuvre d'art qui est belle. Si l'homme réalise une œuvre d'art qui est belle, et si le beau est au niveau de l'être, il réalise donc un nouvel être. De fait, dans l'ordre de la beauté, l'œuvre d'art va plus loin que la nature. Sans être hégélien. Sur ce point, parce que Hegel dit des choses très intéressantes, nous verrons ce soir. J'invite tout le monde, tous ceux qui peuvent, hein, parce que c'est important, Hegel, si vous pouvez le faire. Si vous, parce que c'est comme il y a un séminaire sur Hegel. Vous savez bien, les deux grands génies, on le dit et c'est vrai, Aristote et Hegel. Alors je ne vous demande pas de devenir hegelien, je vous demande de comprendre la réalité, mais c'est bon de comprendre ce que c'est que Hegel. Parce que je crois que c'est l'un chasse l'autre. Hein. Alors c'est intéressant d'essayer de comprendre un peu la position hegelienne. C'est les deux grandes positions. Je crois que vraiment, on est en face de deux grands génies. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des génies qui sont des génies malins. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sous l'action de l'Esprit Saint. Et qui sont sous l'action d'un autre esprit, mais il reste quand même des génies. Alors c'est intéressant de se dire la grande séduction de l'intelligence. Et la grande séduction de l'intelligence, c'est Hegel, ça c'est sûr. C'est sûr que c'est l'opposé, c'est les deux grandes positions. Alors si on connaît un peu Aristote, si du moins on est entré dedans, et qu'on connaît un peu Hegel, vous savez, il ne reste plus grand-chose à côté. Hein. Il y a des positions intermédiaires, comme Kant, il y a des positions intermédiaires, Heidegger, c'est sûr. Mais comme grande position, pas grand-chose d'autre. Eh bien, Hegel nous dit que nous découvrons la beauté du chant du rossignol. Je crois bien que c'est le chant du rossignol. Que si nous avons goûté la beauté de l'œuvre d'art, sans avoir une mélodie dans la tête, nous ne découvrons pas le chant du rossignol. Hein, vous voyez, la fleur n'est belle que si vous avez vu, non pas une photo, mais une œuvre d'art, une nature morte qui vous montre. Alors à ce moment-là, vous découvrez la fleur. Il y a du vrai, comme toujours. Dans toute erreur, il y a du vrai. Il y a du vrai, et en même temps, c'est erroné. Je crois que la beauté de la nature est première pour nous. Mais la beauté de la nature n'est pas ultime. C'est l'œuvre d'art qui, dans l'ordre de la beauté, est ultime. C'est le beau artistique qui est plus beau que l'ordre de la nature. Le beau de la nature a autre chose. Mais l'œuvre d'art, du côté de la beauté, a une formalisation plus grande. Plus poussé. C'est dans l'œuvre d'art que le beau apparaît dans toute sa splendeur. Parce que la création n'est pas premièrement une création en beauté, mais une création en bonté. Valde bonum, dit Dieu, créateur, en regardant son œuvre. Il ne dit pas Valde pulchrum. Non. C'est le démon qui dit. Voyez comme le fruit est beau. C'est curieux, hein? C'est très très curieux. Il y a un petit dialogue là entre les deux qui est extrêmement curieux. Et la première fois où on dit que c'est beau, c'est à l'égard du petit Moïse, on dit qu'il est très très beau. C'est un enfant, alors ça va. Il demande d'être complété. Il n'est pas parfaitement beau, mais il est beau. C'est très curieux ces choses-là dans l'écriture. Hein. On voit très bien que la première création est une création en bonté. Et la recréation est une recréation en beauté. L'œuvre de la recréation, la résurrection des corps, est une création en beauté. Toute la résurrection, toute la glorification, c'est en beauté. Parce qu'au point de vue de la beauté, il n'y a rien de plus. La croix achève l'œuvre de la beauté. C'est là où le Vade Bonum prend toute sa force. Et il n'y a rien de plus dans la résurrection, si ce n'est la manifestation de la beauté. L'œuvre de la beauté, c'est la manifestation. Mais la beauté creuse. Ça va jusqu'à la croix. C'est curieux, ça, vous savez. De la création de la petite pâquerette où Dieu dit « Vade Bonum » jusqu'à la croix où Dieu dit « Vade Bonum » d'une autre manière, parce que c'est le grain de blé qui meurt. Toute la création est une œuvre de bonté. La recréation face à la terre est une œuvre de bonté, manifestation d'amour. Et cette manifestation d'amour est plénière dans la recréation, c'est une œuvre de beauté. La résurrection est une œuvre de beauté. Ça, c'est très important de le comprendre, hein, pour saisir la différence entre l'ordre de la bonté et l'ordre de la beauté. Parce que nous avons, nous, en nous, n'est-ce pas, une espèce de vieille nostalgie de l'Éden. Cette vieille nostalgie qui est très très vieille, que le psychanalyste n'arrive pas à détecter. Mais nous pouvons aller plus loin que le psychanalyste, hein, heureusement, dans un regard de foi. On peut aller plus loin et on peut détecter qu'il y a en nous cette vieille nostalgie que tout ce qui est bon doit être beau et tout ce qui est beau doit être bon. Nous voudrions ça. Nous voudrions que la séduction et que l'attraction soient toujours ensemble. Et que les deux soient intimement liés. Or, depuis la faute originelle, chassée du paradis terrestre, c'est-à-dire chassée de l'Éden, chassée de cette harmonie première, il y a une distinction entre l'ordre de la beauté et l'ordre de la bonté. Et au fond, progressivement dans notre vie, nous arrivons à discerner les deux. Et ce serait peut-être ça le secret de la discrétion. Discerner la différence entre la beauté et la bonté. Et comprendre que la beauté est de l'ordre de la séduction et que la bonté est de l'ordre de l'attraction. Ce n'est pas les mêmes causalités. C'est deux causalités différentes. Par la bonté, on est attiré et la bonté suscite en nous un amour. Et la séduction suscite en nous un plaisir. Et oui, on retrouve le plaisir et l'amour, c'est très curieux, ces choses-là. Et c'est vrai, la beauté suscite en nous une séduction. On est séduit par la beauté, à moins d'être un imbécile, n'est-ce pas ? Mais on est séduit par la beauté. On a en nous une espèce de séduction énorme de voir une chose qui est belle. Une petite fleur, un coucher de soleil. C'est beau. Et puis une œuvre d'art. Alors l'œuvre d'art est plus ou moins proche, plus ou moins... Ça, dans les œuvres d'art, on est beaucoup plus partagés. On est tous unis par la beauté de la nature. À moins vraiment d'être un peu dépravés. On est tous unis. Tandis que dans les beautés d'art, il y a un art qui nous convient plus l'un que l'autre. Et là, on peut discuter. Parce que l'art va formaliser la beauté. Alors, parce qu'elle formalise la beauté, on comprend très bien. On comprend très bien. C'est toujours la... chose qu'on dit quand on va en Autriche, les Autrichiens disent ah oui, les Français ils n'aiment pas beaucoup l'art qui vient après l'art, vous voyez, l'art jésuite, comme on dit, n'est-ce pas ? Alors ils n'aiment pas beaucoup ça, ils n'aiment pas beaucoup cet art qui est l'art gothique, qui est super gothique, qui vient après, qui est l'art flamboyant, là. Ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça, alors que c'est si beau. Faire d'une église un salon, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Faire d'un salon une église, alors vous voyez, ça dépend comment ça se fait, mais on voit très bien les deux manières dont ça peut se faire. Alors, on comprend très bien que lorsqu'il s'agit de la beauté artistique, il y a des distinctions, on aime plus ou moins. Splendeur de la forme, si c'est splendeur de la forme, ça ne peut pas être splendeur de l'être. Parce qu'alors, à ce moment-là, on dirait que l'homme ne peut pas créer une œuvre belle. Ça va très loin, ça. Enfin, on a compris ça. Vous ne pourriez rien comprendre à Nietzsche si vous disiez que la beauté, si vous disiez que la beauté était splendeur de l'être. Nietzsche est là pour le montrer avec force, pour montrer ce qui est juste dans Nietzsche. Il y a quelque chose de juste. Si la beauté était splendeur de l'être, eh bien vous devriez dire que Nietzsche est un imbécile depuis le début jusqu'à la fin. C'est pas vrai. Il y a en lui un sens poétique assez extraordinaire, un sens artistique qui est très beau, qui est très grand. Il y a chez lui un sens de la créativité qui est très grand. Il va trop loin, il voit plus que ça. Mais il a saisi. Il rejette l'être. Il rejette l'être au nom de la beauté. C'est étonnant, ça. Il rejette la métaphysique au nom de la beauté. Voyez, Camus, c'est un peu la même chose, d'une autre façon, moins violente. Mais c'est la même chose, il est pour la beauté. Notre monde d'aujourd'hui est pour la beauté. Notre monde d'aujourd'hui n'est plus pour la métaphysique. Et on comprend, parce que la métaphysique c'est l'être, et la beauté c'est la forme. Et dans l'ordre de la beauté, l'homme règne. Dans l'ordre de l'être, l'homme est obligé de se soumettre. Alors on comprend très bien ces deux aspects. L'hubris, l'orgueil suprême de l'homme, c'est de dire non à la métaphysique et de dire uniquement à la créativité. Ça ne peut pas aller plus loin. C'est l'orgueil suprême. Alors il faut bien saisir que la beauté, le beau, c'est la splendeur de la forme. C'est important, hein, c'est pas un petit problème. C'est un problème fondamental pour notre monde d'aujourd'hui. Fondamental pour notre monde d'aujourd'hui. On ne peut pas répondre à notre monde d'aujourd'hui si on considère que la beauté, c'est la splendeur de l'être. On ne peut pas. C'est absolument impossible. Il y a des tas de choses qu'on ne peut plus rien comprendre du tout. Tandis que si on comprend que c'est la splendeur de la forme, on comprend beaucoup mieux comment toute l'œuvre de la création, c'est une création en bonté et que la recréation est une recréation en beauté. Alors, si c'est la splendeur de la forme, vous comprenez bien que l'être en acte ne peut pas être directement relié au beau. C'est l'acte de la forme, mais ce n'est pas l'acte de l'être. Et donc, c'est très intéressant à voir comme conclusion, la distinction de l'être en acte et d'être en puissance n'a pas de rayonnement direct sur la philosophie du fatuel. Indirect, mais pas direct, puisque le beau ne m'apporte pas une nouvelle modalité de l'être en acte. Je crois que ça, nous pouvons tous le comprendre. Mais c'est important de le saisir. Deuxièmement, le bien commun. C'est le bien, mais il est commun. Alors c'est un bémol. Hein. Le bien normalement transcende et le bien commun est immanent. C'est très curieux, ça fait partie de ces expressions un peu hérétiques, métaphysiques parlant, vous comprenez. C'est comme quand on dit finis effectus. La fin est faite, finis effectus. Normalement, la fin transcende, et la fin est au-delà, hein. C'est ce qui commande l'intention, et les faits, c'est ce qui est résulté. Donc il y a une espèce de contradiction entre fin et fait. Et bien, il y a une espèce de contradiction entre bien commun. Sentir, tant qu'on n'a pas senti ça, on ne voit pas ce que c'est que le bien commun. Le bien, normalement, c'est ce qui transcende, puisque c'est ce qui fonde la fin. C'est ce qui est au-delà, le bien. Le bien, c'est ce qui vous attire. Le bien commun ne vous attire pas tellement, vous savez. Le bien commun. On s'assied dessus. C'est pas du tout quelque chose qui nous attire, le bien commun. On dit, bon, très bien, le suivant. Mais moi, je suis dessus. Tandis que le bien comme tel, nous attire. Et le bien est fin. Et alors, on dit bien commun, c'est le bien que nous sommes capables de réaliser. Donc c'est un bien qui est fait, comme fin est fait.
Il y a une espèce de contradiction latente dans le bien commun.
Ceux qui étudient le bien commun, il faut bien saisir cette contradiction latente dans le bien commun. Parce que le bien n'est jamais commun, le bien est personnel. C'est mon bien. Ça, vous me dites bien. C'est mon bien. Et on voit très bien toutes les disputes sur l'héritage.
Ça vient de ça, c'est parce que c'est l'héritage. On veut en prendre la plus grosse partie. Et quand on veut en prendre la plus grosse partie, parce que c'est mon bien.
L'héritage, c'est le bien commun de la famille. On a de la peine à comprendre.
Et alors, l'héritage, c'est le bien commun de la famille, puisque c'est des grands-pères qui est l'huile qui descend de la barbe d'Aaron. Mais alors, quand ça descend sur les fils de la barbe d'Aaron, chacun veut le plus possible. C'est le bien commun qu'on ne respecte pas. Le bien, on doit le respecter, le bien commun, la plupart du temps, on ne le respecte pas, parce qu'il est commun. Donc, il est le bien de tous. S'il est bien de tous, il est mon bien. Et donc j'ai le droit de le prendre. Puis tant pis pour les autres. Après moi le déluge. C'est exactement le bien commun, ça. Oui. C'est comme ça qu'au fond, on a beaucoup de peine à comprendre ce que c'est que le bien commun. Un bien qui est commun. Alors, est-ce que le bien commun est lié directement à l'être en main? Je dirais non. Ce qui est aussi très curieux. Parce que c'était lié directement à l'être en acte. Il y aurait dans le bien commun une modalité particulière de l'acte qui ferait que, justement, il serait relié au bien, premièrement personnel, relié à l'esprit. Le bien commun n'est pas relié directement à l'esprit. Si vous êtes un animal politique, si nous sommes un animal politique, n'est-ce pas ? Si nous sommes un animal politique, ce n'est pas à cause de notre esprit. C'est à cause de notre corps. C'est pour ça que les intellectuels ont tellement de peine d'accepter la communauté. C'est normal. Et ils doivent le reconnaître. C'est normal. Un esprit, comme esprit, mais il n'a pas besoin d'être dans la communauté. Un esprit comme esprit. Mais comme on est un esprit incarné, un esprit lié au corps, le réalisme du corps exige d'accepter la communauté. Autrement, j'idéalise. Je deviens ange. Et quand on fait l'ange, on fait le reste. On connaît bien la vieux dicton, c'est ça. Et c'est vrai, ça, il faut le sentir, parce que ça fait partie. Oui, exactement comme ici. Il faut sentir comment nous avons la nostalgie du paradis terrestre, de l'Éden, de l'harmonie parfaite entre le bien et le beau. Il faut sentir qu'en nous, il y a tout le temps cette nostalgie angélique. Si on est spirituel, hein. Parce que les non-spirituels, ça c'est une nostalgie qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Moi, ils ont plutôt la nostalgie de marcher à quatre pattes. Alors ça c'est différent comme nostalgie. C'est le matérialisme de marcher à quatre pattes. Tandis que les autres, ils désirent avoir des ailes. C'est le mythe de Platon, comme on entend très bien. Le mythe de Platon, c'est ça. C'est qu'il y a en nous un appel constant vers une espèce de séparation de l'esprit et du corps pour être au-delà de la communauté. C'est que la communauté, c'est rude pour l'esprit. C'est pas commode pour l'esprit. Et tant qu'on n'a pas reconnu notre corps, comme étant un élément essentiel de notre personne. Je ne peux pas mépriser mon corps. Je ne peux pas rejeter mon corps. Rejeter mon corps et mépriser mon corps, c'est me nier. Et donc, tôt ou tard, il y a une revendication sur l'esprit. Tôt ou tard, il y a une revendication sur l'esprit. Et à ce moment-là, l'esprit perd son réalisme et perd le sens du bien. C'est la première chose que l'esprit perd, c'est le sens du bien. Parce que l'être, on peut encore idéaliser, mais le bien, il n'y a pas moyen. Alors on perd le sens du bien, et alors on perd le sens de l'amour. Et on sent très bien, ça, c'est extraordinaire du reste de sentir ça. Sentir très fort ce point de vue-là. Il faut ce réalisme, accepter son corps. et accepter que par le corps on fait partie d'une communauté. Plus ou moins, ça c'est sûr, plus ou moins. On fait partie d'une communauté. Et que la communauté implique un bien commun. Donc vous voyez que le bien commun, c'est pas uniquement l'esprit, donc c'est pas seulement le bien. C'est aussi le corps, par où je suis lié au monde physique. Il y a les doubles liens. Alors je commence à comprendre comment le bien commun étant immanent, il est immanent le bien commun. Comment le bien commun ne peut pas être l'être en acte. Pourquoi? Parce que l'acte, il est séparé. L'acte implique ça, en lui-même. Pas la substance. La substance n'implique pas d'être séparée. Elle est immanente. C'est pour ça qu'il peut y avoir un bien commun. C'est pas contradictoire, mais c'est pas commode à comprendre. Parce que c'est un bien qui n'est pas séparé. Eh bien, il ne peut pas y avoir donc une modalité de l'être en acte qui soit directement le bien commun. Alors on comprend comment la philosophie politique, comme la philosophie du Fatshiré, toutes les deux, immédiatement éclairées par la distinction de l'être en acte. Vous voyez donc qu'il n'y a que cinq modalités. Je crois que ça, c'est important à bien le comprendre. Il n'y a que cinq modalités qui nous donnent la grande lumière de la philosophie de l'être en acte et d'être en puissance, sur toutes les parties de la philosophie. Bon, alors, essayons de terminer maintenant cette seconde grande partie de la philosophie en voyant et en insistant que l'être en acte, après avoir vu toutes ces modalités, et voyez pourquoi je vois toutes ces modalités. Hein. C'est pour mieux comprendre la richesse de la distinction d'être en acte et d'être en puissance. Je vous ai dit, la distinction d'être en acte et d'être en puissance est quelque chose de tellement subtil pour nous, tellement difficile à saisir, qu'il faut tout de suite regarder ces modalités. Et alors il faut comprendre que toutes ces modalités, chacune de ces modalités, me dit quelque chose de l'être en acte. L'être en acte, il est l'essai, il est le bien, il est le vrai, il est l'opération vitale, il est le bon. L'être en acte, puisque les modalités sont incluses en acte, dans la ratio actus. Si j'ose dire, hein. Il faut faire attention quand on dit ratio actus, on peut le dire ici, au terme. Et je suis devant tous ces modes particuliers qui sont contenus en acte de cette ratio actus. Et donc, toutes ces modalités m'aident à comprendre la richesse de l'acte. La richesse de l'acte, je l'explicite dans l'essai, le bien, le vrai, l'opération vitale et le mouvement. Mais faisons attention, hein, toutes ces modalités ne sont pas explicites dans la raison d'acte. C'est bien évident. Elles sont implicites, mais en acte. Et l'acte possède tout cela comme richesse. Toutes ces richesses sont contenues dans l'acte, qui se distingue de la puissance. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'être en acte? Une fois que j'ai fait cette distinction-là, je peux dire que ce qui caractérise l'être en acte, à la différence de la substance, c'est que l'être en acte sépare. Je crois que c'est ce qui caractérise l'acte. Il sépare. La substance, c'est le fondement. La substance donne l'autonomie dans l'ordre de l'acte, dans l'ordre de l'être. Et l'acte, il sépare. Il sépare de tout ce qui est en puissance, de tout ce qui implique une potentialité. Donc, il donne l'autonomie suprême et ultime. Au fond, je vois qu'il y a deux autonomies. Il y a une autonomie fondamentale de la base. Et puis il y a l'autonomie de celui qui atteint sa fin, qui est une autonomie ultime, dernière. Tant que je n'ai pas atteint ma fin, je ne suis pas autonome. quand j'atteins ma fin, j'ai l'autonomie plénière. Et c'est pour ça que je peux être séparé. Ce n'est plus l'isolement, vous voyez. On est isolé quand on n'a pas encore atteint sa fin et qu'on est séparé de celui qui pourrait nous aider. Tandis qu'au contraire, quand on est lié, quand on a atteint sa fin, on acquiert à ce moment-là une séparation à l'égard de tout ce qui n'est pas ma fin. Et ce n'est plus être isolé, c'est être autonome. C'est pour ça que c'est si important de comprendre ce que c'est que l'être en acte. L'être en acte me donne la sécurité. Une sécurité radicale de l'autonomie. L'être en acte me valorise. Je peux dire les deux. Être séparé, c'est être en sécurité de valoriser. Psychologiquement, il y a la conséquence. Alors, au point de vue métaphysique, on peut dire tout simplement, c'est acquérir cette séparation à l'égard de tout ce qui n'est pas ma fin. Je suis lié à ma fin, je suis un à ma fin. Par l'être en acte, je suis un dans ma fin. Et alors, j'acquiers cette séparation. Cette séparation dans l'ordre de l'être. La substance nous fait subsister en nous-mêmes et l'acte nous sépare. Une séparation qui, encore une fois, n'est pas un manque, n'est pas un isolement. C'est une séparation à l'égard de tout ce qui n'est pas ma fin. Je crois que c'est ce qui caractérise le mieux l'acte. L'acte n'est pas de l'ordre de la forme, n'est pas de l'ordre de l'exercice, l'acte est de l'ordre de la fin, de l'ordre de la plénitude, et ça me sépare de tout ce qui est inférieur à cette fin. Donc j'ai une autonomie farouche par le point de vue de l'acte. L'autonomie plénière. Je n'ai plus besoin de personne. C'est la parole de Sainte Thérèse quand elle dit « Dieu seul suffit ». Dieu seul suffit. Je suis lié à ma fin. Et quand on est lié à sa fin, on peut dire ça en toute réalité. Notre fin nous suffit. Et pouvoir dire ça en toute vérité, notre fin nous suffit, vous voyez, c'est comprendre justement ce qu'on représente, la manière dont l'être en acte va donner à la réalité qui est en acte, une modalité de plénitude, une modalité de perfection. La perfection n'est pas l'acte, mais l'acte engendre en nous cette modalité spéciale. Nous pouvons faire encore cette remarque, avant de quitter la métaphysique de l'être en acte et la puissance. Comprendre que dès que je saisis la distinction de l'être en acte et l'être en puissance, nous l'avons déjà dit, nous saisissons comment l'acte est antérieur à la puissance, sauf dans l'ordre du devenir pour l'individu. Et ceci, c'est capital, de saisir que tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Quand vous dites que tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte, ceci veut nous faire comprendre ce qu'on appelle le principe de finalité. Aristote ne nous le dit pas, il n'a pas besoin de le dire. Saint Thomas non plus. C'est quand même très important de saisir qu'est-ce que ça veut dire le TTTTTT au point de vue métaphysique. Surtout depuis Kant, on est obligé, on est obligé de... Aristote n'avait pas besoin, Saint Thomas n'avait pas besoin de parler du principe de finalité. Pour eux, ça allait de soi. C'était évident. Depuis Kant, on est obligé de parler des principes. On est obligé d'expliciter. Kant nous apporte une exigence nouvelle. C'est ça que Kant nous apporte. Une exigence nouvelle. Parce qu'il a rejeté le principe de finalité. Il a ramené la causalité uniquement à la causalité du conditionnement dans l'ordre de l'efficacité. Il a ramené la causalité uniquement dans un ordre d'antécédents de conséquences. C'est-à-dire, il a ramené la causalité à la loi. Si on ramène la causalité à la loi, on est obligé philosophiquement de comprendre ce qu'est la causalité dans l'ordre philosophique. Et dans l'ordre philosophique, on voit bien que la causalité ultime, la cause des causes, c'est la cause finale. Et la cause finale, je la saisis immédiatement en éthique, mais je la saisis d'une manière ultime en métaphysique. Alors, je ne la saisis pas immédiatement, je la saisis par mode d'induction, mais je la saisis comme le résultat de l'induction. Dès que je saisis la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance, je peux dire immédiatement que tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Ou si vous aimez mieux, tout ce qui est en puissance est ordonné à ce qui est en acte. Tout ce qui est en puissance est ordonné à ce qui est en acte. Donc tout ce qui est en puissance est ordonné à ce qui est en acte, c'est bien là où je saisis le principe de causalité finale, au niveau métaphysique. Ceci me semble très important à expliciter, parce que, là encore, en bonne scolastique décadente, on parle du principe de causalité finale, mais on ne voit pas à quel moment j'acquiers le principe de causalité finale. Alors c'est important pour nous de voir que le principe de causalité finale s'acquiert. On acquiert le principe de causalité finale, comme on acquiert le principe de causalité formelle, comme on acquiert le principe de causalité efficiente. Mais c'est beaucoup plus facile de voir à quel moment est acquis le principe de causalité efficiente. Parce que chaque fois que vous écrivez, vous pouvez acquérir le principe de causalité finale, le principe de causalité efficiente. Vous voyez bien, vous écrivez, il y a un résultat. Hein? Sauf quand vous dormez en écrivant, alors à ce moment-là, le résultat est un peu pénible. N'est-ce pas? Vous n'arrivez plus à vous relire. Et c'est pas étonnant, à ce moment-là, j'ai eu un coup de pompe. Alors c'est ça, le coup de pompe, ça consiste à arrêter le courant, n'est-ce pas, de la causalité efficiente. Là on écrit, puis tout d'un coup on dort. Tiens. Illisible, pas étonnant, j'ai dormi. Causalité, là vous apercevez très bien ce que c'est que la causalité efficiente. Il y a un résultat, il y a une finalité, il y a un but, il y a quelque chose, il y a un effet. Là vous saisissez ce que c'est que la causalité efficiente. La causalité formelle, vous la saisissez aussi assez facilement. À travers le mouvement, vous saisissez la détermination. La causalité finale est beaucoup plus difficile à saisir. Parce que c'est l'intention. J'ai l'intention de faire ça. Donc vous risquez de considérer la causalité finale uniquement au niveau métaphorique. C'est une causalité métaphorique. C'est ce qu'a dit Don Scott. Et depuis, les thomistes ont dit la même chose, même Jean de Saint-Thomas. La causalité finale est métaphorique. Et je crois que c'est très dangereux de dire que la causalité finale est métaphorique. Parce que si vous dites que la causalité finale est métaphorique, vous voulez dire que la causalité finale est liée toujours à l'intention morale. Et donc, si elle est liée à l'attention morale, elle n'est pas immédiatement attachée à l'être. Et si elle n'est pas immédiatement attachée à l'être, elle est donc morale et moralisante. Et donc, vous ne pouvez pas vous servir de la causalité finale au niveau métaphysique. À ce moment-là, vous supprimez de la métaphysique toute la recherche de l'être en acte et d'être en puissance. Et en supprimant la métaphysique toute la recherche de l'être en acte et en puissance, vous décapitez la métaphysique. Et vous ramenez la métaphysique uniquement à la substance. Vous voyez comment ça s'est fait, ça? Il faut comprendre comment ça s'est fait progressivement. Donc, on est obligé aujourd'hui, on redécouvre la métaphysique, de redécouvrir au niveau de l'être la découverte de la finalité. La finalité s'enracine dans l'être. Dans l'être lié et saisi par l'esprit, c'est bien évident. Mais la causalité finale se saisit pas au niveau moral. Elle est saisie au niveau moral en premier lieu. Mais elle va beaucoup plus loin que la morale. Elle est saisie au niveau de l'être. Or, pour saisir la finalité au niveau de l'être, il faut saisir la primauté de l'acte sur la puissance. Une fois que vous avez saisi la primauté de l'acte sur la puissance, vous pouvez dire « Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Tout ce qui est en puissance est ordonné à ce qui est en acte. » Et quand vous dites ça, que vous le dites et que vous le comprenez, n'est-ce pas ? Tout ce qui est en puissance, c'est ordonné à ce qui est en acte. Vous saisissez le principe de finalité au niveau de l'être. Et on ne peut plus vous l'enlever. Si vous avez saisi vraiment la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance, on ne peut plus vous enlever ça. Vous êtes obligé d'accepter que la causalité finale est au niveau de l'être. Et vous comprenez tout de suite la conséquence. Nous y reviendrons là-dessus, parce que ça c'est très important. La conséquence, si l'être en acte a 5 modalités, vous avez donc 5 modalités du principe de causalité finale. Et ça alors c'est très curieux. Forcément, si le principe de causalité finale est saisi au niveau de la division de l'être en acte et en puissance, tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Si vous voyez qu'il y a 5 modalités de l'acte, il y a donc 5 modalités de la puissance. Vous pouvez donc exprimer le principe de causalité finale de 5 manières. Ça se décline de 5 manières. Alors réfléchissez à ça, et puis nous verrons explicitement